Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Une émission proposée par la revue Les Refusés.
Bonjour tout seul.
Bonjour. Je retrouve aujourd'hui Olivier et John pour la 20e émission de Quelles sont les nouvelles ? Une émission que nous allons construire autour d'une seule nouvelle que nous avons choisie dans la revue consacrée au thème climat. Son auteur, Olivier Thirion, pour illustrer ce sujet, avait écrit « L'île aux rats » que nous vous proposons d'écouter juste après une virgule musicale.
Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
L'île aux rats. Je pensais que l'on brûlait en enfer. En fait, on y trempe, on s'y dissout. Il pleut, tant et plus, ça soigne de partout. On dirait que le ciel se déverse comme une lumière visqueuse et monochrome. Ici, l'homme a perdu le combat de l'étanchéité. Mes bottes et mon ciré sont mes ultimes remparts. Quelque part, une entité morbide a décrété le retour d'un putain de déluge. Oh. Je ne sais si le phénomène est universel ou si je suis le seul à en profiter. Les murs d'eau construisent une nouvelle demeure pour les pauvres humains que nous sommes. Des lacs, des lagunes qui recouvrent les arbres envahissent les creux des marais putrides, des tourbières. Les gouttes se sont unies pour constituer des trombes. Le vent est leur allié, qui soulève les tuiles et rabat les masses liquides sur la gueule des passants. Enfin, plus exactement, sur ma gueule, puisque je suis le seul humain vivant ici. Les trombes se font vagues qui déferlent autour de moi, des torrents vacataires, des fleuves jusqu'ici inconnus, des amas liquides qui nous délivrent un message limpide. Nous ne nous en relèverons pas en tant qu'espèce. L'homme va crever la gueule ouverte sous ses chanlates percées, devenir de la bouffe pour les mollusques, se fondre dans le bassin amniotique originel.
Quand il ne pleut pas, c'est pire. Il grêle, il tempête, il ouragonne, il vortex, il cyclone. C'est vraiment le grand bordel. Les accalmies sont grasses, tourbeuses, sablonneuses, mouvantes, vaseuses. Et puis surtout, elles sont courtes. Je n'ai pas terminé de commencer à envisager l'éventualité de profiter d'un moment de calme que déjà il repleut. J'ai l'âme spongieuse et le moral aqueux. Pour tout dire, je me sens pas bien. Un syndrome humidophobe doublé de la certitude que je vais y passer.
Il semblait que je sois l'unique voyageur de ce train. À peine sorti du wagon, je fus happé par un maelstrom de pluie et d'embrun.
C'est comme ça ici,
m'a dit le type venu m'accueillir à la gare.
Sans un peu de vent, la mer serait bien monotone, non ? Je vais vous accompagner sur l'île et ouvrir la maison.
Il était plus courtois que courtois, muni d'une solide barbe, d'un bonnet de laine rouge et d'un ciré jaune. Deux cuissardes terminaient de faire de lui une caricature de marin.
Des fois, c'est calme. Mais généralement, ça bouge pas mal. Là, on a une gentille tempête d'hiver. Oh, ça passera. Ça finit toujours par passer. Vous restez longtemps ?
Oh que non ! Ah non, surtout pas ! Juste le temps de faire un rapide inventaire et de mettre en vente cette maison.
Bon. Alors c'est pas tout ça, nous devons nous dépêcher. Faut profiter de la marée, sinon je risque d'être bloqué sur l'île. Et puis, avec le soir qui vient, le temps va se durcir. Ah. Venez que je vous équipe. Je vous ai amené un ciré et des bottes.
Hier encore, j'étais un Parisien tout à fait adapté à son milieu de vie. Je me déplaçais en vélo ou en transport en commun. À la fois grégaire et solitaire. Je n'étais qu'une fourmi ouvrière au sein de la fourmilière. J'avais un métier, des amis, une aventure par-ci par-là. Suffisamment d'argent pour profiter de la ville et de la vie. Et là, je débarquais dans l'ultime station de l'antique ligne reliant Paris à la mer. Un petit village de pêcheurs accroché à la lande et aux rochers. Une gare, une pêcherie, quelques petites et solides maisons et un port protégé par une énorme jetée sur laquelle venait se fracasser la mer en furie.
Elle est où exactement cette île ?
Ben, de l'autre côté de la jetée. Pas loin, enfin disons 2 kilomètres.
Et on va traverser comme ça, en pleine tempête ?
Ben oui, on n'a pas le choix de toute façon.
Comment ça ?
Ben, vous imaginez quoi ? Qu'il y a un hôtel, des gens pour vous accueillir et vous loger ? Non. Toutes les maisons sont vides en hiver. La pêcherie est fermée depuis des années. L'été... Ah, l'été, c'est différent. Il y a même un camping, des restaurants, des balades en mer, mais... Mais là, nous sommes en février, jeune homme.
Et vous ?
Quoi, moi ?
Ben, vous habitez ici ?
Sûrement pas, non. Je vis dans une ferme à l'intérieur des terres, à une dizaine de kilomètres d'ici. Ouais, je suis paysan, moi, je suis pas pêcheur.
Et l'île, elle est vide aussi ?
Autant que je sache, oui. Bon, je vais vous dire, je crois bien que je suis votre voisin le plus proche. Ah, faut reconnaître que vous êtes pas banal. Faut être dingue pour faire du tourisme en cette saison.
Ah, du tourisme, vous savez, je suis là presque par hasard. J'ai rien demandé, j'ai en visite, une histoire d'héritage. Mes parents sont morts, je suis fils unique, sans enfant et sans femme. Me restait juste ce grand-oncle, que j'ai pas vu depuis l'enfance. Alors si je dois renoncer, c'est vraiment pas grave, hein. Je ne veux vraiment pas que vous preniez des risques pour moi. J'attendrai le prochain train pour repartir.
Non. Je suis payé pour vous emmener sur l'île, alors je vous y emmène. Quant au train... En hiver, il vient jusqu'ici que 2 fois par semaine, alors... Alors, on y va, fils, ça, hein ? Franchement ! Oui. La marée est presque basse et découvre les rochers. À marée basse, il y a tout un chapelet d'îlots qui se révèle. On peut suivre un chenal et on est protégé de l'essentiel de la tempête. Mais ça dure pas. Dès que la marée remonte, les rochers sont à nouveau recouverts et là... La navigation devient extrêmement périlleuse. Alors, comme je vous le disais, manions-nous.
Les skiffs étaient minuscules. Une grosse barque munie, heureusement, d'un assez gros moteur. Quelqu'un avait peint sur l'étrave « London Calling ». Je remarquais que le A de « Calling » était inscrit dans un petit cercle. Je ne sais pourquoi le symbole de l'anarchisme dans ce lieu me parut incongru. Je ne me rappelle pas de la traversée. Mon cerveau a dû bloquer mes souvenirs. Autodéfense ou charité ? Les rochers tout autour de nous ne nous protégeaient pas du chaos, mais rendaient celui-ci acceptable. Nous étions ballottés, secoués, projetés dans tous les sens. Mais le moteur régulier et puissant nous menait vers notre objectif. Le paysage était dantesque. Les vagues qui se fracassaient semblaient rebondir et passer au-dessus de nous, avant de s'écraser un peu plus loin. On apercevait vaguement, par intermittence, la masse grise et sombre de l'île. Je n'arrivais pas à me persuader que celle-ci fût un refuge. Il n'en demeurait pas moins quel était le but de mon voyage. Finalement, nous accostâmes, comme par miracle. Un énorme bloc de granit protégeait une petite crique où l'on avait aménagé un ponton. Quelques marches débouchaient sur un plateau, quasiment plat, qui ne devait pas dépasser 10 ars. Quelques rochers, une lande rabougrie et trônant un peu de guingois à l'extrémité de l'île. Une solide maison à pignon qui semblait défier l'océan en folie.
J'ai pas pris le temps de me présenter. Je m'appelle Roger.
Une fois enlevé son bonnet et son ciré, on parvenait à saisir un peu mieux la personnalité et l'âge de mon interlocuteur. Visiblement, il avait dépassé la 60aine. Tout, dans son visage, tirait vers le bas. Le nez était légèrement busqué, les dents tartrées et déchaussées, la barbe blanche. Ses longs cheveux blancs retenus en catogan. Un anneau ornait chacune de ses oreilles décollées. Ses yeux, vert bleu, avaient la couleur des huîtres et semblaient perpétuellement humides.
Bon, vous avez là une petite semaine de réserve de nourriture. Voilà, la maison est bien aménagée, mais il n'y a pas d'électricité en hiver. Ouais, pas de réseau non plus pour votre portable. Le poêle, il suffit à chauffer l'ensemble et la réserve de bois est abondante. Là, ici, pour vous éclairer, il y a des lampes à huile dans chaque pièce. On récupère l'eau de la pluie, comme vous le savez, c'est une ressource illimitée.
Mon oncle vivait ici ?
Eh bien sûr. L'été, il louait la maison à des touristes en mal de solitude. Ça marchait très bien. Lui, il en profitait pour partir en vacances.
Mais il vivait de quoi ? Les locations, ça rapporte pas tant que ça.
Et de sa pension de retraite. C'était un ancien marin de la Royale. Il a bourlingué toute sa vie et il l'a terminé ici.
Vous savez comment il est mort ?
Ah non, on l'ignore.
Comment ça ?
Eh ben, il a disparu. Allez, allez, c'est pas que je m'ennuie, mais comme je vous l'ai dit, il me faut repartir de l'île avant que la marée ne remonte. Accompagnez-moi jusqu'au ponton, là. J'ai encore une caisse de matériel à vous remettre.
Disparu ? Excusez-moi, mais on n'a pas retrouvé son corps ? Comment je fais ? Comment je vais hériter, moi, si on n'a pas retrouvé son corps ?
Il
qui
a
nous
précisé.
Dit qu'il est vraiment mort ?
Non, vous inquiétez pas. Il a précisé dans son testament que vous étiez son seul descendant. Et qu'en cas de disparition, l'île vous revenait.
Il ne parla plus, jusqu'à être à nouveau installé dans le bateau. Je le sentais inquiet et nerveux. La tempête redoublait et on voyait nettement que la marée avait commencé à monter. J'avais la nette impression qu'il ne m'avait pas tout dit sur la disparition de mon oncle et qu'il en savait plus qu'il ne voulait le montrer.
« Je reviens dans 3 jours. Il n'y a pas de train avant, de toute façon. Ne sortez pas dans la tempête la nuit, hein. Ne vous approchez pas trop du bord. Une vague plus forte que les autres pourrait vous emporter. Et il y a sur l'île des endroits dangereux, des trous qui communiquent avec la mer. » Vous pourriez vous blesser dans un de ces trous, ici comme, Comme dans un espace infini, personne ne vous entendra crier. Dans la caisse que je vous laisse, il y a une bouteille de cognac et une carabine 22 longs rifles.
Carabine ? Pour tuer les aliens ?
À propos d'aliens, les gens du coin appellent cette île l'île aux rats. Ouais. Vous partagez l'espace en copropriété avec une colonie de plusieurs centaines de rats. Et puis, vous verrez, dans les rochers, là, vivent une multitude de crabes assez balèzes. Méfiez-vous de ces saloperies, hein. Ils ont une caractéristique qui les rend particulièrement arrogants. Ils sont nyctalopes. Ils voient la nuit. Enfin, si la tempête se calme, un peu, il y a les oiseaux. Oui, c'est un véritable écosystème. Les chats chassent les crabes. Ceux-ci bouffent les rats. Ces derniers se dévorent entre eux. Les oiseaux becquent tout le monde. Alors, la carabine, c'est pour appeler à tout ce petit monde qui sait le maître des lieux. L'été, c'est bien différent. La présence humaine interfère, les éloigne quelque peu. Mais là, vous tombez en plein festival. Le mieux, c'est que vous ne sortiez pas de trop. Allez, on se revoit dans 3 jours.
Il esquissa un sourire, sans doute content de m'avoir fait peur. Sans attendre que je réponde, il mit les gaz et la petite barque s'engouffra vaillamment dans les flots furibards. Elle semblait lutter contre le vent et les courants et disparut au détour du rocher qui protégeait le petit port naturel. J'entendis Roger chanter à tue-tête le générique angoissant que Jerry Goldsmith inflige aux spectateurs du 8e passager. Roger, en plus d'être un solide marin paysan, semblait posséder un humour particulier et une solide culture cinématographique et musicale, qui me le rendit finalement tout à fait sympathique. Je tirai la caisse jusqu'à la maison, m'arrêtant plusieurs fois pour observer la lande. Mais il faut croire que même pour un rat, il ne faisait pas un temps à mettre un museau dehors. L'île, ou du moins ce que j'en voyais, semblait absolument déserte.
Un appentis jouxtait la maison. À l'intérieur de celui-ci, bien rangé dans des caisses étanches, une éolienne et plusieurs panneaux photovoltaïques attendaient le printemps. Et un temps nettement plus clément pour alimenter en électricité la masure. Il faudrait que je me contente du poêle et des lampes à huile. La bâtisse possédait 4 pièces. La salle principale, à la fois séjour et cuisine, était ornée d'une belle bibliothèque. Le poêle servait de cuisinière. 2 chambres, propres et blanches. Dans la plus grande, une armoire dans laquelle je trouvais des draps et des couvertures. Il y avait également une petite salle de bain et des toilettes sèches. La douche était alimentée par un réservoir qui recueillait la pluie qui se déversait sur le toit. La 3e pièce était une réserve. Tout un mur portait des étagères garnies de bouteilles et de boîtes de conserve. Donc, par souci de l'ordre, j'y portais la caisse. Outre la carabine et la bouteille de cognac, je trouvais un carnet, épais et noirci d'une petite écriture qui semblait être une sorte de récit de voyage. Et puis, 2 plaques de chocolat et plusieurs kilos de café qui complétaient la maigre cargaison. Oh, finalement, mon séjour serait sans doute pas si désagréable. La fatigue me tomba dessus sans prévenir au second verre de cognac. Je m'endormis sous un énorme édredon, bercé par le hurlement d'un vent qui cherchait à ouvrir la terre en 2.
je fus réveillé par un élément incongru. La lumière du soleil. À travers la petite fenêtre de la chambre, elle se déversait comme une cascade qu'on aurait enfin libérée. Je sortis dans la magnificence du matin. Le ciel était si bleu qu'on y voyait encore brûler les étoiles. Le vent était tombé. Vers la côte, un épais brouillard isolait l'île. On distinguait vaguement la jetée. Vers le large, de sombres masses nuageuses envahissaient le ciel. L'île était inondée de lumière. Tout semblait suspendu, comme entre parenthèses. J'aperçus à quelques mètres de la maison un couple de rats bien dodus qui prenaient le soleil. Ils ne semblaient pas constituer une menace. Je choisis de les ignorer. Une brise légère agitait doucement les quelques genêts qui poussaient héroïquement dans la petite lande. Seule tache végétale dans un environnement minéral. Il était évident que cette parenthèse n'allait pas durer, que nous allions être en première ligne pour accueillir le grain qui se préparait. Je voulus profiter de ce répit accordé par la tempête pour faire le tour du propriétaire.
La maison était à l'ouest de l'île, face au large. Le petit port où nous avions abordé à l'est, face à la côte. Un sentier assez visible les reliait. De ces deux points partaient deux côtes, au profil très différent mais qui constituaient un ovale presque parfait. Autant la côte sud semblait plate et sablonneuse, autant celle du nord était rocheuse et déchiquetée. Je les nommais instinctivement les Grands Sables et la Côte Sauvage, en hommage à des vacances familiales à Belle-Île quand j'étais enfant. Je suivis le sentier jusqu'au petit port, que je baptisai le Palais pour les mêmes raisons, puis remontai la plage jusqu'à la maison. Je passai derrière celle-ci pour découvrir une sorte de terrasse naturelle qui surplombait la mer de 2 ou 3 mètres. À l'échelle de l'île, c'était l'équivalent des falaises d'Étretat. Le point privilégié pour admirer les rochers en contrebas. Les vagues heurtaient ces vaillants blocs de granit et l'eau volait jusqu'à moi. J'observais un instant ces masses noires noyées dans l'écume. Quelque chose d'imperceptible avait attiré mon regard. Quelque chose dans le reflet du soleil qui se reflétait plus mat qu'il n'aurait dû l'être. Je fixai mon regard sur un point précis et soudain je compris. Les roches n'étaient pas noires. En fait, elles étaient recouvertes d'une sorte de masse noirâtre qui bougeait. Un peu comme une peau. C'était vivant.
J'avais eu le réflexe de décrocher les jumelles dans la bibliothèque et de les passer autour de mon cou pour partir en balade. Je fis le point sur cette masse indistincte et poussai un cri. Un amoncellement de milliers de crabes noirs se prélassaient au soleil avant que la tempête ne revienne. Je relevai la tête pour constater que la situation évoluait rapidement. Le ciel à l'ouest et au nord n'était plus qu'une barrière de nuages qui semblait se précipiter vers l'île. Un éclair suivi d'un formidable coup de tonnerre me fit renoncer à terminer mon tour d'île et je me réfugiai le plus vite possible dans la quiétude relative de mon antre, réservant la fin de mon exploration à une prochaine éclaircie.
Il était près de midi et je n'avais dans le ventre qu'un café vite avalé. J'ouvris donc une boîte de conserve et une bouteille de rouge. Les premières gouttes commençaient à s'écraser sur les vitres des solides petites fenêtres. Et j'entendais le vent se lever, partir à l'assaut des lauzes du toit. Très vite, dehors, ce fut le chaos. La maison se mit à vibrer, tant et plus. Tant et plus que tout s'agitait à l'intérieur. Je me souvins alors du carnet. Je m'installai dans l'unique fauteuil de velours vert face au poêle et je l'ouvris. La couverture de cuir noir et rouge était solidement maintenue par un lacet du même cuir. Ah, je m'étais trompé. Il ne s'agissait pas d'un récit de voyage, mais de plusieurs écrits dans des langues et à des époques différentes. Je reconnus là du gaélique, du latin, de l'espagnol, de l'anglais. Un texte allemand était calligraphié en lettres gothiques. Et certains textes libellés dans des langues que je ne pouvais même pas nommer. Enfin, le dernier était en français. Je compris très vite qu'il s'agissait du témoignage de mon oncle.
Il racontait comment, juste avant de quitter la marine, il avait acquis cette île lors d'une mémorable partie de poker dans un bar voisin de la base où il terminait sa carrière militaire. Il décrivait son adversaire unique comme une sorte de baba cool sans âge qui prétendait être le dernier descendant d'une longue lignée de nobles du pays. Mon oncle décrivait de longs cheveux blonds retenus en catogan, un anneau ornant chacune de ses oreilles. Surtout, il fut impressionné par ses yeux verts, bleus, couleur d'huître. Il décrivait son emménagement et le rythme de vie d'un retraité très actif. Il venait sur l'île dès que le printemps apaisait les éléments, préparait la maison, nettoyait et réparait ce qui devait l'être après un rude hiver. Puis, dès que les premiers touristes apparaissaient, il filait vers la montagne où il s'adonnait à la randonnée pour revenir en automne et profiter de l'arrière-saison. Puis, avant les premières tempêtes, il repartait à la découverte du monde. Il était célibataire et possédait pas mal d'économies qui, ajoutées à sa pension d'officier et aux locations d'été, lui garantissaient un certain confort financier.
Ce bel équilibre dura quelques années, jusqu'à ce que l'âge venant et les petits problèmes de santé s'accumulant, il voulut réduire la voilure. C'est ainsi qu'il prépara son premier hivernage. À ce moment du récit, il y avait une cassure. Il semblait bien que quelques pages avaient été arrachées. Suivaient des notes faméliques, quelques phrases énigmatiques ou illisibles. Et puis plus rien. Il me fallut un moment pour revenir à la réalité. La lumière avait changé. Plus de pluie, plus de vent. Soudain, j'entendis comme une cavalcade sur le toit. Des hurlements stridents d'oiseaux, des cris de plumes qui s'agitèrent. Une clameur, aiguë, faite d'une multitude de petits cris. Je saisis la carabine et sortis par la porte que j'ouvris à la volée. La lande était recouverte d'une foultitude de rats. Ils recouvraient tout l'espace disponible et encerclaient la maison. Je levai la tête pour m'apercevoir qu'il recouvrait le toit également. Le ciel aurait été bleu s'il n'avait été caché par une nuée d'oiseaux qui plongeait méthodiquement sur la masse de rongeurs pour s'en repaître goulûment. Instinctivement, je tirai en l'air et comme par magie, en moins d'une seconde, les rats disparurent, suivis des volatiles qui s'évanouirent vers le large. Stupéfait, je ne pus m'empêcher de crier. « C'est qui le patron, ici? Merde.
Je me mis à rire d'un rire nerveux, bien conscient de crâner un petit peu. Cette brutale vision de l'enfer m'avait foutu les jetons. Où donc étaient partis tous ces rats? Se cachaient-ils? Et pourquoi? Pourquoi étaient-ils apparus, disparus aussi soudainement? Quelle était la logique? Je décidai de partir explorer la côte sauvage, dans l'espoir d'y découvrir la planque des rongeurs. Il me semblait avoir aperçu, lors de mon arrivée, des fûts d'acier dans le minuscule port. Peut-être était-il rempli de gasoil, constituant une réserve pour les bateaux accostant sur l'île. Si c'était le cas, je pourrais apprendre à cette vermine à respecter la propriété privée en leur offrant une belle flambée.
Je me dirigeais vers la côte nord munie de la carabine, des jumelles et de quelques bidons que j'imaginais pouvoir remplir de combustible afin d'en faire des cocktails Molotov improvisés. Le cheminement devint très rapidement difficile. La lande se transforma en un lapier parsemé de baignoires creusées dans la roche. De longues fissures, larges parfois de plusieurs mètres, obligeaient à des détours importants, me déportant vers l'ouest alors que je souhaitais progresser vers l'est. C'était un véritable labyrinthe naturel qui semblait n'avoir d'autre but que de me faire tourner en rond. Je repérai deux gros rochers plus hauts que les autres, un peu plus à l'est. Si je parvenais à m'y hisser, j'aurais à coup sûr une vue sur toute la côte. Je fis donc demi-tour. Je passai à la maison et pris une planche de 2 mètres de long qui se trouvait sous la pentille. Je me portai alors à la hauteur des rochers en suivant le sentier et déposai les bidons. Grâce à la planche, que j'utilisais comme un pont pour enjamber les crevasses, je parvins facilement à les rejoindre. Je les escaladai avec tout autant d'aisance. Je ne m'étais pas trompé. Vers le couchant, la succession des blocs menait le regard vers les hauts fonds, couverts de crabes que j'avais découverts la veille. Vers l'est, la côte était toujours régulière et l'on discernait distinctement le palais. Les postes d'observation étaient l'avant-garde d'une sorte d'épille minérale qui s'enfonçait fièrement dans les flots.
C'est vers le milieu de cette barre rocheuse que le destin et les vagues avaient déposé l'épave de ce qui semblait bien être une barque. Elle reposait à l'envers. Toute la partie arrière avait disparu. Je portai immédiatement les jumelles à mes yeux. Sur l'étrave, je lus à l'envers London Calling. Le A de Calling, entouré d'un cercle, me parut cette fois complètement à sa place dans le décor. Je fus étonné de la façon dont je pris les choses. Calmement, avec une énorme distance. J'analysais froidement la chaîne de causalité qui se développait devant moi.
Ainsi, Roger s'était fracassé contre les rochers. Avait-il survécu? Si oui, avait-il réussi à rejoindre l'île? Je criai « Roger! Roger !» cherchant avec mes jumelles à repérer un corps échoué, mais il était évident qu'il avait disparu. Mon cerveau tenait à distance les éléments les plus perturbants. Comment était-il mort? Avait-il été dépecé par les crabes, déchiqueté par les rats, emporté par les oiseaux? Ou bien était-il installé bien confortablement, en train de m'observer et d'observer ma descente aux enfers? Demain, personne ne viendrait me chercher. Demain, je ne prendrai pas le train en direction de Paris. Personne s'en inquiéterait. Je vivais seul, je n'avais pas de famille, je n'avais informé personne de mon voyage. Roger était, comme il l'avait bien dit, mon seul et unique voisin à des kilomètres à la ronde. Et Roger avait disparu en mer. Bientôt, ma réserve de nourriture et de bois disparaîtrait, elle aussi. Bientôt, il me faudra me mettre à la chasse et pour survivre, rentrer dans la chaîne alimentaire de cet espace écologique et si particulier qu'était l'île, en espérant garder le plus longtemps possible la place enviée de prédateur suprême. Il me restait 5 cartouches. Après...
Ce moment précis, le déluge s'abattit sur l'île, cette fois sans aucun avertissement. J'ignore comment je me retrouvais dans la maison, mais je me réveillais quelques heures plus tard dans le fauteuil vert. À mes pieds, la bouteille de cognac vide. La pluie redoublait et la maison semblait vivante, tant elle était secouée par les rafales. Je savais qu'il n'y aurait plus de répit, plus d'éclaircie. Le carnet était sur la table. Il restait, à la suite du récit de mon oncle, quelques pages blanches. Je me mis à écrire.
Il pleut, tant et plus. Ça suinte de partout. On dirait que le ciel se déverse comme une lumière visqueuse et monochrome. Un coup de vent plus fort que les autres ouvrit la porte. Je voyais nettement le sentier qui menait au petit port. Au-delà, il n'y avait nul brouillard, mais là où aurait dû se trouver la côte et la jetée, il n'y avait que la mer infinie.
RCN.
Une émission proposée par la revue Les Refusés.
C'était le CD End to End de Philippe Sbar qui accompagnait toute la lecture de cette angoissante L'île aux rats. Exceptionnellement, en notre prochaine émission, en juin, nous laisserons le micro aux élèves du CM2 de l'école Marcel Leroy. Ils vous liront les nouvelles qu'ils ont écrites, mais animeront également toute l'émission. En attendant, n'hésitez pas à nous réécouter sur le podcast de l'émission sur RCN. Quelles sont les nouvelles? Au revoir et à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Oups. Hop, hop, hop.